Bonsoir, comment allez-vous? Le 1er mai, c'est le premier jour du mois du fameux « fais ce qu'il te plaît ». La formule est réjouissante, même si elle se limite à l'habillement, puisqu'elle est la suite du « ne te découvre pas d'un fil ». Et si ce « fais ce qu'il te plaît » était général? D'abord, on pourrait demander à ceux avec qui nous vivons si on ne les empêche pas par moment de faire ce qui leur plaît, justement. Nous serions peut-être étonnés de leur réponse. Il est possible que pour nous plaire à nous, ils s'efforcent de faire des trucs qui les assomment, et ce depuis des lustres. Ensuite, à notre tour, nous énoncerions ce qui ne nous plaît pas. Et qu'en mai, nous ne ferons donc pas. Aller dîner chez des ennuyeux, faire des courses d'habits, regarder un match ou une série à la télévision, éplucher de la salade, repasser, rempoter, lire des livres incompréhensibles. En mai, nous emmènerons nos enfants à la mer au lieu de les emmener à l'école. Et les jours de pluie, nous irons au cinéma ou au musée et puis nous mangerons des gâteaux. En mai, on dira bonjour aux gens qu'on croise dans la rue, sur les chemins, dans les halls d'immeubles. En mai, je ne remplirai pas ma déclaration d'impôt et en juin non plus, d'ailleurs, ni jamais. En mai, ce qui me plairait, c'est de voir un petit nain dans les bois ou même une petite fée. En mai, j'oserais dire oui, sans me poser de questions, genre « je vais déranger ». Et j'oserais dire non, sans me justifier. Et peut-être même, oserais-je dire « merde ». Oui, c'est un très gros mot, on n'a pas le droit de le dire. Sauf en mai, justement.
Bonjour, c'est Léa, j'appelle depuis un an ou plusieurs mois. J'ai 8 ans et je veux poser une question, je voudrais savoir pourquoi les gros mots existent, puisque on n'a pas le droit de les dire.
Bonsoir Léa. Alors c'est la question la plus posée au petit bateau, Léa, que tu nous poses. Pourquoi les gros mots existent puisqu'on n'a pas le droit de les dire? Laëlia Véron, vous êtes maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Je serais bien embarrassée, moi, de lui répondre à Léa.
Ah, je pense qu'on peut répondre assez rapidement. C'est pour le plaisir et le besoin de la transgression, justement. C'est parce que ces mots sont interdits qu'on n'a pas le droit de les dire qu'ils existent. Si j'essaie de développer un petit peu, on présente souvent les gros mots et aussi les jurons comme des mots inutiles, voire dangereux, qui peuvent faire mal aux personnes qui les reçoivent, et on apprend aux enfants à ne pas les dire, mais ils les disent quand même. Et au-delà des enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'une langue ou une société sans insultes, sans gros mots, ça n'existe pas.
Ah bon ?
On ne peut pas se passer d'insultes. Pourquoi ? Parce que justement, puisqu'on ne doit pas les dire normalement, les dire quand même, c'est un exutoire, ça nous défoule. C'est quelquefois un besoin. Quand on se cogne contre une table, on a besoin des mots, ça fait du bien.
Mais vous dites ça n'existe pas. Vous pensez, Laëlia Véron, que quand le Dalaï Lama se met le petit doigt dans le mur, il dit en tibétain « merde » ?
Alors, je ne sais pas si lui le fait, mais en tibétain, bien sûr que ça existe. Une langue, une société, un niveau collectif sans insultes, ça n'existe pas, même s'il peut y avoir des usages particuliers d'individus qui ne vont pas forcément les employer. Moi, je parle au niveau de la langue, parce que les insultes, elles ont des fonctions, au pluriel, individuelles, mais aussi sociales, collectives. Les insultes d'une langue vont nous montrer quels sont les tabous et les valeurs d'une société.
Ah.
Et ça peut varier, justement, suivant les langues, quelquefois suivant les aires géographiques, mais aussi suivant les époques. Nous avons certaines insultes qui subsistent, mais aussi certaines qui varient. Mais je voudrais insister sur le fait que les insultes ont des fonctions aussi, même au niveau individuel, très différentes. Ça peut servir à se défouler, ça peut servir à blesser l'autre, ça peut servir aussi à se valoriser, à montrer sa maîtrise de la langue. Par exemple, dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, Cyrano répond à une insulte contre son nez par toute la grande tirade du nez où il manie toutes les insultes possibles. Et c'est pour clouer le bec à son adversaire, mais aussi pour briller aux yeux du public et notamment de la belle Roxane dont il est amoureux. Il y a aussi ce qu'on appelle un plaisir de la performance, des fois dans la petite vanne, la petite insulte bien tournée, bien sentie. Et il y a même des insultes affectueuses. C'est ce que les linguistes Dominique Lagorgette et Pierre Larrivé appellent des insultes de solidarité. Vous l'avez dans certains groupes et dans certains rapports, on peut se dire sur un ton très affectueux « mon connard, ma salope ». Bon, il faut que les interlocuteurs soient en accord sur ce genre de principe. Mais les insultes affectueuses, ça existe tout à fait. D'ailleurs, quand on parle de ce qui est enseigné aux enfants, très souvent, on va dire aux enfants de ne pas employer les insultes et au contraire d'utiliser les mots de politesse.
J'y pensais.
Ouais. Ouais, il y a un lien très fort entre les insultes et la politesse. On parle des mots de politesse en disant les petits mots magiques. Les insultes comme les mots de politesse sont des mots magiques en quelque sorte, des mots de l'interaction avec autrui qui peuvent soit couper, soit faciliter l'interaction avec autrui.
Pendant que vous parliez, je pensais au capitaine Haddock, qui était une espèce de virtuose de l'insulte, avec des insultes qu'il inventait.
Tout à fait, et ça c'est intéressant, parce que les insultes du capitaine Haddock, elles ne font pas mal, elles font rire, parce que justement ce sont des insultes très originales, elles ne vont pas bénéficier de la force du collectif. Nous, les insultes qui vont nous faire mal, c'est soit des insultes très précises mais très adaptées à nous, à nos failles, à nos faiblesses, soit des insultes qui, même si elles ne sont pas adaptées à nous, vont bénéficier d'un point de vue performatif, d'un point de vue de l'effet, de la force de la répétition sociale, typiquement « pute ». Parce que, quelle que soit notre situation, quoi qu'on en pense, socialement, c'est une insulte, ça a été déterminé comme une insulte. Alors que Bashi Bouzouk, ce n'est pas une insulte sociale, elle n'a pas cette force de la répétition et elle va nous faire rire.
Bashi Bouzouk, Moula Gauvre, c'est vrai qu'elles sont extraordinaires, les insultes du capitaine Haddock. Lélia Véron est maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'université d'Orléans, je vous le disais tout à l'heure. Elle a écrit avec Maria Candéa « Le français est à nous !» Petit manuel d'émancipation linguistique. C'est édité à La Découverte, aux éditions de La Découverte. Alors tu demandais il y a un instant, Léa, tu te plaignais un petit peu de la lenteur de la réponse que tu as reçue à ta question. Alors je comprends que ce soit pénible d'attendre, mais tu as beaucoup de chance d'avoir reçu une réponse, même tardive, parce que figure-toi, Léa, que nous recevons peut-être 300 questions par semaine au petit bateau, on en garde une grosse moitié et on en diffuse 5. Alors tu fais le calcul, il n'y a pas besoin d'être agrégé de mathématiques pour savoir que ça coince. Et figure-toi que nous en sommes désolés parce qu'on les adore, vos questions. On les jette pas, on les aime, elles sont bonnes. Celles qu'on garde pas, ce sont les doublons ou celles qui sont pas bonnes techniquement. Mais c'est tout, c'est rare. Mais voilà, il y a entre ce qu'on reçoit et ce qu'on diffuse, ça peut pas tenir. Dans les petits bateaux, ce soir, justement, vous pourrez entendre une question qui a été posée à Jacques-Marie Bardenzeff. Enfin, c'est plutôt Jacques-Marie Bardenzeff qui est venu répondre à cette question. Sur les cartes du monde, la France est représentée au milieu. Est-ce que pour chaque pays, c'est pareil? Amou Bouakaz a répondu comment Louis Braille a réussi à inventer de nouvelles lettres alors qu'il ne les a jamais vues, parce que Louis Braille était aveugle. Et Emmanuel Puy-de-Bas a répondu à la question « Je voudrais savoir si les éléphants boivent par leur trompe ». Ces questions ont été laissées sans notre répondeur au petit bateau.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 17 ans et j'aimerais savoir s'il existe des pays qui n'ont pas de chemin de fer. Merci, au revoir.
Clive Lamming, vous qui êtes un historien spécialiste des chemins de fer, vous avez écrit des livres sur beaucoup de chemins de fer dans beaucoup de pays. Y a-t-il, demande Marie, des pays sans chemin de fer?
Tout dépend, Marie, de ce que vous appelez un chemin de fer. Si c'est un petit chemin de fer industriel, par exemple aux abords d'une usine, ou un chemin de fer pour une mine ou une carrière, on peut dire, à coup sûr, que tous les pays du monde ont eu des petits chemins de fer. Maintenant, si vous parlez de grands réseaux, un grand réseau national, comme par exemple en France, Paris-Lyon-Marseille, Paris-Lille, c'est-à-dire des pays qui sont industrialisés et qui ont donc des trains lourds et rapides, là je vous répondrai qu'il y a un certain nombre de pays au monde qui n'ont jamais eu de chemin de fer. Je pense en particulier à l'Afghanistan, par exemple, qui est un pays pour lequel je me suis d'ailleurs dévoué pour construire son réseau national. Ce pays n'avait jamais eu de chemin de fer et n'en a d'ailleurs jamais eu jusqu'à aujourd'hui, sauf quelques petites lignes de pénétration depuis les pays voisins, depuis l'Ouzbékistan au nord. Donc l'Afghanistan est le type même du pays qui n'a jamais eu. L'Islande, par exemple, est une île avec un relief très difficile. Ça n'a donc jamais été facile pour faire un chemin de fer. Et il n'y a pas de très grandes villes ni de très grands ports. Souvent, les chemins de fer ont même précédé les canaux. Je pense à Suez, c'était une ligne de chemin de fer que d'ailleurs on va la reconstruire. Mais aussi le canal de Panama, par exemple, c'était une ligne de chemin de fer avant un canal, parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Donc, vous voyez, le chemin de fer s'est construit plutôt dans des pays assez curieux, mais presque l'ensemble des grands pays du monde a eu des chemins de fer. Par exemple, la Martinique, la Guadeloupe, on a pensé qu'il n'y avait pas de chemin de fer, mais il y avait des petits réseaux sucriers avec des trains qui transportaient la canne à sucre, donc sur des wagons, avec une petite locomotive à vapeur. Non, vraiment, le chemin de fer a été universel. Il y en a eu jusqu'au cœur du Massif central, en haut des montagnes, en Suisse, à 4000 mètres d'altitude, en haut de la Jungfrau. Les chemins de fer, il y en a eu partout. Tenez, même dans la cordillère des Andes, quand Saint-Exupéry essayait de traverser avec son avion, déçu, furieux, il voyait dans la nuit les lumières des trains qui étaient plus hauts que lui, qui passaient à 5000 mètres d'altitude. Il voyait les lumières, alors que son avion ne pouvait pas dépasser 2000 mètres.
Donc il y a des chemins de fer partout. Qu'est-ce qui entraîne Clive Lamming plutôt, le chemin de fer, le transport des voyageurs ou le transport des marchandises ?
Le chemin de fer est né par vocation pour les marchandises. Son premier grand client était le charbon pour la révolution industrielle, et aussi par la suite le pétrole. Le chemin de fer, c'est d'abord des marchandises. Sauf en Europe, où le chemin de fer, on lui a retiré les marchandises, puisqu'aujourd'hui en Europe, les marchandises ne représentent que 9-10% du transport. Le reste se faisant par la route. Il y a des camions partout. Mais des pays comme les États-Unis, le chemin de fer transporte toujours à peu près 80% des marchandises. Le chemin de fer américain a gardé sa prospérité et sa vocation d'origine. Les trains de marchandises, il y en a partout. Les trains de voyageurs, on les a même pratiquement supprimés. Pour qu'il y ait aujourd'hui des trains de voyageurs aux États-Unis, il a fallu faire une compagnie nationale, Amtrak, qui est une sorte de SNCF publique, qui fait rouler des trains de voyageurs, mais difficilement sur des lignes qui sont encombrées de trains de marchandises. Autrement dit, ces trains de voyageurs vont pas très vite, ils vont à la vitesse des marchandises. Jusque vers 1940, les chemins de fer américains avaient des trains superbes, avec dessinés en forme d'obus, avec des ailerons à l'arrière. C'était absolument superbe. Ces grands trains transcontinentaux qui traversaient les USA. Mais c'est l'avion qui a gagné, surtout pour des questions de durée du voyage. Ça ne rapportait plus. Les compagnies privées avaient abandonné le chemin de fer.
Les livres de Clive Lamming sont beaux, intéressants et nombreux. Vous trouverez leurs références sur le site des Petits Bateaux.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Génial, cette formule de Stromae qui raconte son enfer.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes, des savantes et savants pour leur répondre.
Je m'appelle Juliette, j'ai 7 ans et demi et j'aimerais savoir si les éléphants boivent par leur trompe. Au revoir.
Bonsoir Juliette. Nous proposons ta question à Emmanuel Puy-de-Bas. Vous avez écrit « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », édité chez Odile Jacob, et vous êtes une scientifique. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, Emmanuel, et aussi au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous étudiez les animaux.
Oui, j'étudie les animaux et j'étudie en particulier l'évolution des comportements et des performances. Donc en gros, j'essaie de comprendre tout ce dont ils sont capables de faire dans leur milieu et comment ils évoluent.
Alors cette histoire de trompe sert-elle à boire ?
Alors, cette trompe, elle sert à boire chez les adultes et aussi chez les enfants, mais pas de la même manière. C'est une très bonne question, Juliette. En fait, les petits, ils boivent avec la bouche. Ils mettent la bouche directement dans l'eau pour aspirer l'eau. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas encore se servir de leur trompe pour aspirer l'eau. Les adultes, en fait, eux, ils savent faire. Ils ont le développement musculaire nécessaire. Donc, ils mettent la trompe dans l'eau, ils aspirent l'eau et ils la bloquent dans la trompe. Une fois que l'eau est bloquée dans la trompe, l'extrémité de la trompe va être portée dans la bouche et ils vont souffler pour que l'eau passe de la trompe à la bouche. Et ça, les petits, ils apprennent à le faire en grandissant parce qu'ils n'ont pas encore la motricité suffisamment performante pour pouvoir aspirer.
Mais Emmanuel Puy-de-Bas, en aucun cas la trompe fonctionne comme une paille, c'est-à-dire en emmenant directement l'eau dans la bouche. Elle est stockée dans la trompe et après c'est le petit bout extérieur de la trompe qui repasse dans la bouche.
C'est exactement ça. Alors c'est une paille, mais à un moment donné, la paille, elle est capable de stopper l'eau et de la bloquer à l'intérieur de la paille pour ensuite la mettre effectivement dans la bouche.
Mais ça passe pas par l'arrière.
Non, ça passe pas par l'arrière. L'eau, elle est vraiment bloquée dans la trompe et ensuite elle est expulsée dans la bouche par l'extrémité de la trompe de l'éléphant.
Exactement comme si l'éléphant vous envoie de l'eau pour s'amuser, sauf là, il se l'envoie à lui-même dans la bouche.
Exactement. Et effectivement, ils jouent aussi beaucoup en faisant ça, c'est-à-dire en stockant l'eau dans leur trompe et en se l'envoyant les uns contre les autres pour s'amuser. Et la trompe, c'est vraiment un organe à tout faire chez les éléphants. Moi, j'ai un gros projet en ce moment sur l'utilisation de la trompe. On se rend compte qu'ils savent tout faire avec, y compris utiliser des outils. Ils prennent des petites branches dans la trompe pour se nettoyer les orteils, par exemple.
Non.
Si. Et ça m'intéresse énormément parce qu'un organe qui est capable, sans squelette à l'intérieur, hein, il y a 150 000 faisceaux musculaires dans une trompe, mais il n'y a pas d'os. Et un organe qui est capable de déraciner un arbre et d'attraper une toute petite graine, bah, ça intéresse beaucoup les roboticiens. Et donc, on va aussi essayer de faire ce qu'on appelle la bio-inspiration, c'est-à-dire de créer un nouveau robot qui soit inspiré des capacités extraordinaires de la trompe des éléphants.
C'est un bras.
C'est ça. Et une main. D'ailleurs, pour les éléphants d'Afrique, l'extrémité de la trompe, qui a deux petites protubérances, on appelle ça des doigts.
On les voit bien. D'ailleurs, les photos sont époustouflantes dans le livre d'Emmanuel Puy-de-Bas, « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », Odile Jacob. Quand je dis « on les voit bien », ce sont les trompes d'éléphants et même la petite main qu'il y a au bout.
Bonjour, je m'appelle Gabriel. J'aimerais savoir comment Louis Braille a-t-il réussi à inventer des nouvelles lettres pour les aveugles alors qu'il ne les a jamais vues. Merci, au revoir.
Oh, Gabriel ! Ça, Gabriel, c'est génial parce qu'il lit. C'est évident qu'il lit et bravo parce que je trouve que tu lis très bien, Gabriel. Tu lis très bien puisqu'on a très bien compris. Alors, Gabriel vous demande, à vous, Amou Bouakas, qui pratiquez le braille, puisque vous ne voyez pas, comment Louis Braille a-t-il réussi à inventer des nouvelles lettres pour les aveugles alors qu'il ne les a jamais vues. Vous faites des conférences, vous êtes consultant dans le domaine de la diversité, Amou Bouakas. Est-ce que vous pouvez répondre à Gabriel ?
Alors, Gabriel, Louis Braille a peut-être vu quelques lettres, parce qu'il n'a perdu la vue qu'à 3-4 ans. Donc on peut imaginer qu'il ait vu des lettres. Mais je te confirme qu'il ne s'est pas du tout servi des lettres que toi tu lis pour inventer le braille. Et pour cause, dans ses manuels scolaires d'enfants, il devait lire avec ses doigts ses lettres tout en courbe, tout en complexité. Ça prenait une place folle. Et donc il a appris à lire les lettres que tu lis, mais avec ses doigts. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, mais c'est vraiment pas pratique. Il faut que je trouve un autre système. Et il réfléchit et il s'entoure de savants de son temps, parce qu'il a une grande force de persuasion. Et il rencontre notamment un responsable des services secrets de Napoléon, qui lui montre qu'avec l'empereur, il communiquait en transformant les lettres en ensemble de points. Le système de l'agent secret était un peu compliqué, mais l'idée de transformer chaque lettre en un ensemble de points germe dans sa tête, il travaille, et il finit par confectionner un alphabet de 6 points au maximum, c'est-à-dire lisible par la phalange de l'index droit, et cet alphabet va lui permettre de coder toutes les lettres pour faire le braille. Pour faire le A, c'est le point 1. pour faire le B, c'est le point 1 et 2. Mais là où c'est proprement génial, c'est que pour faire le K, qui est le A plus 10, on rajoute le point 3. Pour faire le L, qui est le B plus 10, on rajoute le point 3. Autant te dire qu'une fois que tu connaîtras par cœur les 10 premières combinaisons, tu connaîtras tout l'alphabet. Et c'est comme ça qu'il a créé un nouvel alphabet qui ne ressemble en rien au tien et qui repose sur des combinaisons de X points parmi 6. Et avec ces 63 combinaisons, il arrive à faire l'alphabet, les chiffres, les notations musicales, les ponctuations, bref, tout ce dont on a besoin pour lire sans voir.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Biographie de Lou Reed absolument abominable qui m'a donné un cafard noir. Lou Reed est mort il y a presque 10 ans et maintenant les biographies quittent les chemins balisés de la géographie pour s'aventurer vers les zones d'ombre. et comme Laurie l'a chanté, Take a Week on the Wide Side. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Pour poser une question à notre répondeur, il faut faire le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 10 ans et j'habite à Sceaux. Je sais que sur les cartes du monde, la France est représentée quasiment au milieu et j'aimerais savoir si chaque pays c'est pareil ou pas. C'est tout, au revoir.
Drôlement bonne idée, Grégoire. Alors nous vous proposons cette question à vous, Jacques-Marie Bardanzef, parce que les cartes, quand même, vous travaillez pas mal avec. Est-ce que la France est toujours au milieu ?
Oui, Grégoire, c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude, nous Français, de voir la France au centre du monde. Alors c'est peut-être justement un petit peu ambitieux, un peu orgueilleux peut-être. Alors c'est vrai que c'est pratique, par exemple, pour les compagnies aériennes. Les vols partent de Paris dans le monde entier et reviennent en France. Donc c'est le bon sens. Mais c'est légitime pour chaque habitant de tous les pays du monde, d'avoir son pays au centre du monde. Et chacun a raison. Chacun est en quelque part au centre du monde et voit le monde autour de lui. Alors, il faut savoir que quand il y a une carte du monde avec la France au milieu, le Pacifique est coupé en deux. L'immense Pacifique. Alors, il y a des cartes intéressantes qui sont faites en deux moitiés. Donc, on peut mettre soit les moitiés côte à côte et la France est au milieu, soit ces deux moitiés, on les inverse gauche-droite, et à ce moment-là, c'est le Pacifique qui est entier. Alors moi j'aime bien ce genre de carte parce que le Pacifique c'est très important au niveau géologique parce qu'il y a autour du Pacifique ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique qui est une zone volcanique et sismique où il y a la plupart des catastrophes naturelles et c'est un tout géologique. Donc j'aime bien avoir le Pacifique en entier. Alors parfois quand je présente à mes étudiants ces cartes-là, je mets les cartes en inversant. Alors à ce moment-là, j'ai effectivement le Pacifique entier. Mais alors la France est coupée en deux, ce qui n'est pas toujours beau à voir, mais bon, c'est la part des choses. Mais Grégoire, ta question est intéressante parce que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. La Terre est ronde. Chaque point est le centre de tout le reste.
Alors, un pays comme l'Islande, par exemple, comment il fait pour se mettre au milieu ?
Ah, bah, alors, l'Islande ne peut pas être bien être au milieu parce qu'on va dire que l'Islande est trop près du pôle. Hein. Ouais. C'est vrai qu'en général, dans les cartes, l'équateur est au centre de la carte. Donc, c'est vrai que l'Islande peut se mettre au milieu en gauche-droite, mais pas au milieu en nord-sud. Voilà. L'Islande est près du cercle polaire, c'est ce qui leur fait son charme. Hein. Il y a des aurores boréales, il y a des paysages magnifiques, mais du coup, c'est un pays nordique.
Jacques-Marie Bardanzef est vulcanologue et professeur à l'université Paris-Saclay. Restons dans les voyages plus modestes cette fois. Êtes-vous déjà allé dans des hôtels bon marché modernes ? Ils sont organisés pour donner un maximum de confort pour un minimum de frais. C'est souvent astucieusement fait et je suis admirative de toutes ces bonnes idées d'organisation de l'espace. Il y a cependant une chose qui me laisse toujours mal à l'aise, c'est le coup du rideau. Quand vous arrivez dans la chambre, vous apercevez un large rideau qui laisse augurer une large fenêtre. Et en fait, la fenêtre est petite. Elle fait à peine la moitié de la largeur du rideau. Alors que couvre l'autre moitié du rideau ? Eh bien, juste le mur, dans lequel but ? Ben, rien. Donner l'illusion d'une belle ouverture, dans quel but ? Donner l'illusion d'une belle ouverture sur la lumière, l'extérieur, la vue, la vie. À chaque fois que je tire le rideau pour voir dehors et tombe sur le mur, j'ai un petit coup de mou. Pourquoi font-ils ça ? Puisqu'on s'aperçoit forcément de l'arnaque à un moment donné. Peut-être parce que la puissance de suggestion du rideau est plus forte que la réalité. Le rideau bouge avec le vent, joue avec la lumière, il est variation, palpitation, balancement, espérance, mystère. C'est le foulard du magicien qui se soulève un peu, beaucoup, d'un coup, pas du tout. On se dit prendre le mur et ça fait mal. Pas le rideau. Dans le quartier du Marais, à Paris, la galerie Polaris expose les énormes rideaux en terre cuite de l'artiste Clémence Van Lunen jusqu'au 9 mai. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est étonnant. Malgré leur rigidité, ils bougent ou en donnent l'impression. Mais on aura compris, rideaux et impressions font bon ménage. Podcaster, mes amis, podcaster ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement sur franceinter.fr. Nicolas Delmas, Marjorie Duvoucou, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe et Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin et son masque et la plume consacrés ce soir au cinéma.